Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, hier sur cette antenne à la même heure, je vous propose une deuxième émission spéciale à l'occasion du festival Quai du Polar qui se tient en ce moment même à Lyon et un focus sur les romancières en particulier qui sont invitées à la manifestation. Ainsi, je reçois aujourd'hui Susanna Crossman. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation de venir sur votre émission aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Britannique de naissance, vous vivez en France depuis de nombreuses années et parlez donc, comme on vient de l'entendre, notre langue à la perfection, à notre plus grand bonheur. Et après avoir publié des nouvelles, des essais, vous vous êtes lancée dans la fiction avec ce premier roman qui paraît aujourd'hui aux éditions de La Croisée sous le titre « L'île sombre » dans une traduction de l'anglais de Karine Chichereau. Mais avant d'entrer dans ce livre, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur votre univers puisque vous enseignez, ai-je lu, l'art-thérapie précédemment à New York mais aussi en France. En quoi ça consiste exactement ?
Alors l'art-thérapie, on est souvent à la base artiste. Donc en l'occurrence pour ma part, j'ai été comédienne professionnelle et plasticienne de longue date. Et puis on a également une formation paramédicale comme une autophoniste, comme un ergothérapeute. Et on est là pour travailler, je dirais, cette singularité chez la personne. Ce que l'art peut être moteur dans la notion du plaisir, pour retrouver l'estime de soi, la confiance en soi. Donc je travaille avec le théâtre, je travaille aussi avec les arts plastiques et notamment avec des personnes donc en psychiatrie adulte.
Et vous collaborez également au Dangerous Women Project. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet des femmes dangereuses, Susanna Crossman?
Alors ça c'est un projet dans lequel j'ai participé il y a 3-4 ans, où il y a également eu la participation du Premier ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, et en fait où de nombreuses femmes ont été invitées d'écrire des textes. Il y avait 365 femmes.
Donc, et par jour?
Voilà, et on était chacun invité à écrire un texte de fiction ou un texte qui célébrait une femme de l'histoire qui était oubliée. Et donc ça traçait, je dirais que ça donnait place, quelque chose qui est très important pour moi dans toutes mes collaborations, parce que j'organise aussi des dîners virtuels avec des femmes de partout dans le monde, de donner une place à la voix de la femme.
Mais qu'est-ce que c'est une femme dangereuse?
Une femme, je dirais qu'il va secouer nos attentes de la femme. Je dirais que c'est ça.
Ça me rappelle d'ailleurs un titre d'un essai qui avait paru il y a quelques années, qui s'intitulait « Les femmes qui lisent sont dangereuses », auquel a succédé « Les femmes qui écrivent sont dangereuses ». Et vous avez raison, danger au sens de secouer les gens. Alors Susanna Crossman, une question pour autant qu'elle ne soit pas intrusive, pourquoi est-ce que vous vivez en France ?
Alors, comme beaucoup de gens, je suis arrivée pour un petit séjour de 9 mois. Et comme je rigolais un jour avec un ami brésilien, je dirais la question, c'est pas pourquoi on est arrivé, c'est pourquoi on y reste.
Et donc, pourquoi êtes-vous restée?
Alors, je suis restée par un parcours avec professionnel. Et puis ensuite, avec une culture aujourd'hui qui me passionne. Je dirais la France, c'est un pays qui me passionne. Ça me passionne dans le milieu du soin dans lequel je travaille aussi beaucoup, dans cette singularité qu'on a dans ce pays avec une qualité de réflexion. On n'est pas que dans le faire, mais on est aussi dans le penser aussi.
Donc, à la fois dans le milieu médical, mais aussi dans le milieu artistique, et puis une velléité pour l'écriture. Et voici donc ce premier roman. Quel a été le déclic, Susanna Crossman, pour passer au genre de la fiction? Est-ce que c'était un rêve de longue date, en effet?
En fait, j'écris depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai écrit beaucoup de nouvelles. L'écriture, depuis que je suis enfant, en fait, ça a été quelque chose, le livre a été un peu un nid pour moi, je dirais. Je suis une très, très grande lectrice. Quand j'étais petite, je lisais 5 ou 6 livres par semaine. Et je pense que j'ai écrit ma première nouvelle à l'âge de 8 ans. Donc voilà, la fiction, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, en fait, l'écriture de la fiction.
Restons encore un instant sur votre univers, Susanna Crossman, puisque dans le texte autobiographique qui vous présente, à Quai du Polar, vous dites que parmi vos romans préférés, il y a Le Poulpe, j'entends la collection évidemment, oui, hein, qui est cette centaine d'auteurs qui a participé à cette série aux éditions Baleine, Bel Canto d'Anne Patchette, un roman qui se passe dans une ambassade où il y a une prise d'otage, et aussi Le désert des Tartares de Buzzati. C'est très éclectique, hein, sachant que pour les auteurs, vous citez en plus Patricia Highsmith. Donc votre univers est vraiment très large.
Oui, je suis une très grande lectrice. J'aurais pu mettre sur cette liste Sant'Antonio.
Sant'Antonio, donc Frédéric Dard,
ouais,
dont on vient d'ailleurs de célébrer le centenaire de la naissance.
J'aurais pu mettre Duras, je cite aussi Foucault. Je considère que la culture... c'est quelque chose de très large et on peut autant apprendre qu'une série de Netflix que de lire de la philosophie grecque. J'aime bien faire ce grand écart. J'ai 3 enfants et 2 adolescents. Enfin, j'ai 3 filles. Et j'aime bien aussi toutes les mondes dans lesquels elle m'amène. Et de rester, pour moi, la culture, c'est vraiment le champ de tous les possibles. Donc, j'aime bien ouvrir. Je pense que c'est extrêmement important.
Mais est-ce qu'il y aurait un auteur, une autrice en particulier, qui vous a donné envie d'écrire ? Parce que lire, c'est une chose. Apprécier des lectures, c'est une chose. Écrire, c'en est une autre.
Alors, il n'y a pas un modèle, mais les auteurs français comme Duras, les Britanniques comme Virginia Woolf. Enfin, Woolf, c'est quelqu'un qui m'a énormément influencée dans l'écriture de L'Île sombre, hein, même si c'est un roman noir, dans le genre de stream of consciousness et de rentrer dans les pensées diverses et profondes du personnage. Ça a été vraiment une autrice qui m'a beaucoup influencée dans l'écriture de ce livre. Ouais.
On va en parler dans un instant. Et encore un mot pour dire que parmi les musiques que vous citez, d'un côté PJ Harvey, Let England Check, et de l'autre Dido's Lament de Purcell. Là aussi, c'est le grand écart. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait traduire ce titre de PJ Harvey, Let England Check?
On va secouer l'Angleterre, je pense.
Ah, ouais. C'est d'actualité alors.
En fait, c'est un album qui est sorti il y a quelques années. Et donc, elle va mélanger des influences plutôt punk avec la folk anglaise. Et voilà. Pour moi, ça représente bien, je pense, mon monde entre Purcell, que j'adore, et l'Element de Dido qui... Enfin, qui est une chanson bouleversante, qui est quelque chose qui prend aux tripes. Et puis ce côté punk, qui aussi fait partie de ma jeunesse. J'ai été plutôt punk en tant qu'adolescente. Donc je garde précieusement aussi cet aspect de ma jeunesse.
Et d'ailleurs, comment ça se passe pour vous ces dernières années pour retourner sur votre île natale, la Grande-Bretagne, compte tenu du Brexit et compte tenu de la pandémie qui a quand même fermé toutes les frontières? Et d'ailleurs, votre compatriote RJ Ellery, qui devait venir à Quai du Polar, n'a pas pu venir à Lyon à cause du nouveau confinement. Comment ça se passe pour vous?
Je dirais que c'est un sujet assez douloureux. J'ai pas vu ma famille depuis presque 2 ans. Donc c'est compliqué, puis c'est très étrange parce que j'ai écrit, enfin on va en revenir sûrement, mais j'ai écrit L'île sombre pendant la période de Brexit et il est fortement influencé par cette ambiance de fermeture et c'était extrêmement étrange ce moment à la fois, donc qui était à l'automne l'année dernière, à la fois avec les frontières qui ont fermé et puis toutes les histoires des camionneurs qui pouvaient pas amener leurs sandwichs au jambon à cause des difficultés avec des douanes et à la fois avec ces variants qui partaient de l'Angleterre et on avait cette notion d'une île qui se fermait et c'était très étrange. Et on écrit ce livre, enfin qui traite cette notion de frontière, de territoire et de pouvoir, de voir et de vivre cette réalité. Donc c'est vraiment, on peut dire, des choses dans le quotidien. Aujourd'hui, si je veux envoyer un colis, par exemple, à mes proches, ou j'ai envoyé un colis avec des exemplaires de l'île Sambre à un ami écrivain, et j'ai dû faire des documents comme je fais quand j'envoie des choses aux États-Unis, où je vis depuis 20 ans, mes enfants sont bilingues, je vis entre la France et Grande-Bretagne, enfin, c'est très étrange de voir tout d'un coup, même sur des actes banals du quotidien, quelque chose qui se rigidifie et qui sûrement auront des répercussions pendant au moins 10-20 ans. Donc c'est une génération de jeunes, je trouve, qui vont vivre une fermeture. Donc, ouais.
Avant d'aller avec vous sur cette île sombre, alors finalement, on écoute quoi ? La musique pop ou la musique baroque ? PJ Harvey ou Purcell ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute, Susanna Crossman ?
Oh, PJ Harvey.
Alors, c'est parti. Et sur ce morceau de PJ Harvey, nous reprenons notre conversation avec Susanna Crossman, une des invitées du festival Quai du Polar auquel nous consacrons un week-end spécial. Et nous allons en effet parler plus précisément de ce premier roman que vous publiez, L'île sombre aux éditions de La Croisée, un huis clos à ciel ouvert, puisque vous racontez dans un récit très dense et tendu, d'un peu moins de 150 pages, le week-end agité que passent ensemble trois couples sur une île réputée maudite dans une maison à l'abandon qui cache beaucoup de secrets. Quel est le point de départ de cette histoire, Susanna Crossman ?
En fait, le roman, je dirais, comme beaucoup de projets de création, elle a deux racines. La première racine a été un week-end que j'ai passé il y a 20 ans sur l'île du Guesclin, qui est sur la côte bretonne entre Saint-Malo et Cancale et qui était l'île qui appartenait à Léo Ferré. Donc,
c'est un mauvais souvenir ce week-end ?
Non, je dirais que c'est un souvenir étrange et inquiétant. Donc j'avais un ami qui a fait partie de l'organisation de la vente et on est allé passer un week-end sur cette île. Toutes les affaires de Léo Ferré étaient restées sur l'île. Il y avait encore son piano, son gilet était posé, ses partitions de musique. Donc, pour expliquer aux auditeurs, en fait, l'île, elle est à, on va dire, 1 kilomètre. Donc, on peut traverser la baie à pied.
Quand la mer est basse.
Voilà. Et quand la mer montait, donc, on était invités aux dernières minutes, on s'est retrouvés avec un groupe d'invités très éclectiques dans ce lieu extrêmement mystérieux. Et le plus que la mer montait, le plus qu'on sentait cette ambiance, je dirais, qui est propre à la notion de l'île, c'est-à-dire On avait des gens qui étaient sur la plage, qu'on pouvait regarder, qui pourraient nous regarder. Il y avait le sentiment à la fois de pouvoir. Tout d'un coup, cette liberté, qu'est-ce qu'on fait? Personne peut nous juger, personne peut nous voir. Donc, une genre d'ivresse qui m'a énormément interpellée. Et avec un lieu aussi, il y a des vestiges romains sur cette île. Donc, aussi avec la notion de l'histoire de l'île, l'histoire de Ferré, mais aussi l'histoire proprement dite de l'île. Donc voilà, j'avais vécu cette expérience et un jour j'étais à Londres avec une copine écrivaine et on parlait et c'était à l'époque de Brexit. Et là, elle m'a dit « Ah non, mais là, là c'est une idée de roman ». Donc en fait, c'est parti de ces deux expériences. Donc j'ai transposé cette île en Grande-Bretagne parce que voilà, l'île en lui-même n'a pas, voilà, elle appartient pas géographiquement forcément à une culture française. Et j'ai développé l'histoire à partir de ça.
Donc c'est la question de l'isolement aussi. Et oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est coupé du reste du monde? Et à quel moment on peut se transformer? Alors, une île abandonnée sur laquelle pèse une malédiction, une tempête à venir, des personnages réunis un peu par hasard, qui ne se connaissent pas tous, qui eux-mêmes donc ont des secrets. Évidemment, ça peut nous rappeler un classique de la littérature policière, à savoir le roman d'Agatha Christie, And Then There Were None, longtemps traduit en français par Les Dix Petits Nègres et qui aujourd'hui s'intitule Ils étaient 10. Un peu les mystères des titres, comme ça, qui de leur version originale à la version française perdent en route un des protagonistes. Bref, y a-t-il vraiment une influence d'Agatha Christie, sachant qu'au détour d'une phrase, vous mentionnez, Susanna Crossman, les trois souris aveugles, une nouvelle qui a inspiré la pièce de théâtre La Souricière d'Agatha Christie. On y revient. Vous comprenez ma question, donc.
Oui,
vous voyez
tout à fait.
Où je veux venir.
Oh, c'est marrant parce que je connaissais pas ce lien entre les trois petits souris, en fait. C'est voilà.
Vous ne connaissez pas la nouvelle Three Blind Mice?
Non.
Qui est devenue La Souricière?
Non. Et d'ailleurs, c'était toute une histoire, question en fait, ces mots lors de la traduction française, parce qu'elle est très violente en fait, cette comptine, comme beaucoup de comptines d'enfants, hein, c'est très très violent. Et c'est une question importante lors de la traduction d'avoir, parce que la notion que en fait, dans la comptine, on a un couteau à hache. En fait, et on va, voilà, les souris sont aveugles et on va hacher. Non, je dirais pas que le livre de Agatha Christie, j'adore Agatha Christie, mais c'est pas une influence directe sur ce livre. Par contre, bien évidemment, toute cette mythe autour d'une île qui se ferme et dont on peut pas s'en sortir avec un groupe qui va commencer à vriller. On voit aussi dans Lord of the Flies, Le Seigneur des Mouches de Golding. Enfin, il y a ce traitement, je pense, de qu'est-ce qui se passe quand on est en huis clos. Et c'est vraiment cela qui me fascinait. Et également avec cette notion de vivre au cycle des marées. Parce que la mer et la nature dans le livre, je dirais que c'est presque l'île. C'est un septième, c'est un sixième personnage, en fait, dans le roman.
Sixième ou septième? Septième.
Septième, pardon.
Oui, ouais, c'est ça.
Septième. Ouais.
Oui, parce que donc ils sont six. Alors, je vais les nommer brièvement. Il y a Josh qui initie ce week-end. Hein. C'est un promoteur immobilier et effectivement, il emmène certains de ses amis sur place pour visiter cette maison qui va être vendue. Donc, il est avec Catherine, qui elle est chirurgienne. Ensuite, Clarisse, une amie d'enfance de Josh, venue avec Charlie, son fiancé, et enfin Kevin, un collègue de Josh, venu lui avec Sarah, qui est esthéticienne. Alors je me demandais ce qui représentait aussi pour vous, est-ce que c'est un échantillonnage de la société d'aujourd'hui, Susanna Crossman?
Ouais, je dirais que j'ai souhaité vraiment l'histoire, comme voilà, il y avait cette influence, je dirais, un peu sous-jacente de Brexit, d'avoir cette société anglaise un peu en miniature, et surtout autour de la classe sociale et le pouvoir. Donc voilà, quelles sont les racines de ces personnes, à la fois Catherine qui va être, dont le grand-père est vient de Jamaïque, qui va être une des premières chirurgiennes cardiaques noires, donc avec tout le profil, on va dire, du chirurgien, qui a un profil, enfin une personnalité quand même très spécifique, et puis avec ce côté que, voilà, elle est noire, et avec le fait de se battre, enfin c'est extrêmement important. Et puis toutes les rôles par rapport, voilà, je dirais la classe sociale. J'avais lu, par exemple, pour le personnage de Josh, beaucoup sur les traders et la city. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font ces personnages de classe sociale, the upper class, l'élite britannique? Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, je pense que c'est 7% des enfants qui vont à l'école privée. Et l'école privée en Grande-Bretagne, c'est pas comme en France. Ça coûte, je sais pas, 40 000 euros par an, par enfant, à peu près.
C'est donc très très cher.
C'est très cher. Et ces jeunes, donc quand ils deviennent adultes, font à peu près 2/3 de l'élite, que ce soit dans les médias, législation, les hauts fonctionnaires, etc. Donc, il y a vraiment cette notion en Grande-Bretagne de la classe sociale et l'hiérarchie. Donc, on voit Kevin à un moment donné qui va obéir à Josh, qui est son chef, parce que, il a besoin d'argent, tout simplement. Donc, il n'a pas d'idéalisation autour de l'argent. Il a besoin pour payer son prêt, etc.
Alors, c'est vrai qu'ils disent beaucoup de notre époque, chacun, l'argent, les abus sexuels, que ce soit sur enfants ou sur femmes, la dictature des apparences, le racisme, la société de consommation alimentaire. Là, c'est tout un monde contemporain qui est incarné à travers ces 6 personnages. Alors, si vous voulez bien, Susanna Crossman, on pourrait entendre dans votre voix un extrait de ce roman, avec peut-être ce passage où il est particulièrement question de Josh, donc à la fois l'homme, mais aussi le lien très important que vous faites avec la mère, qui, comme vous le disiez, est le 7e personnage de l'île sombre.
En tête, Josh jeta un nouveau coup d'œil à la montre de luxe qu'il avait achetée 6 mois plus tôt. Après avoir entreaperçu le poignet de son boss, il avait su qu'il devait viser plus haut. La coupe de son costume, son look, la voiture, les restaurants, la montre, une édition limitée gravée, finition satinée, de l'horlogerie de pointe. Tout cela comptait, s'avérait crucial pour réussir. Josh sentait le sable céder sous ses pieds, plus doux qu'auprès des rochers. Il appréciait cette espèce de coussin granuleux sous ses orteils, humide, froid, lisse. Droit devant, un jeu de creux et de bosses. À croire qu'un menuisier avait sculpté le sable pour dessiner des écailles de poissons. Ni débris, ni coquillages. Un dégradé de beige versant vers le bleu. Puis l'île émergeait de ce paysage lunaire comme sortie de nulle part. Josh baissa les yeux et vérifia l'heure une fois de plus. La semaine précédente, se rappela-t-il, il avait rêvé de sa montre. C'était étrange, car il était rare qu'il se souvienne de ses rêves. Mais à mesure qu'il progressait vers l'île et la maison, le rêve refaisait surface, brut, d'une seule pièce, du début à la fin. Aussi ridicule que cela puisse paraître, c'était comme si ce paysage ouvrait la porte de son rêve. Il pouvait refermer cette porte. Le rêve semblait suivre les ruisselets, envahir chaque creux sablonneux. Il avait rêvé qu'il se trouvait à l'intérieur d'une petite maison blanche. Il y avait sa montre aussi. Le temps mesurait, qui avançait. Dans le rêve, Josh arpentait la maison blanche, flanquée d'une bande d'enfants hilaires incontrôlables. Ils tripotaient tout de leurs mains sales. Josh scellait les fenêtres de la maison blanche avec du ruban adhésif, bloquait les portes avec des sacs de sable. La montée des eaux était imminente. Sa sœur Evelyn était là. Il ne la voyait pas. Mais il sentait sa présence insaisissable dans la maison. Il savait qu'elle était morte. Et pourtant, elle était là. Elle essayait de lui dire quelque chose. Dans la maison, résonnait le tic-tac de sa montre. Un battement inlassable et menaçant. Mais il ne parvenait pas à la retrouver. Nulle part. L'eau montait. Il entendait le bruit de l'eau. Et il frémit, terrifié. Il ne parviendrait peut-être pas à l'arrêter.
Merci beaucoup, Susanna Crossman, pour cette lecture extraite de votre roman « L'île sombre » où on entend la voix intérieure de ce personnage, Josh. Et puis surtout, on comprend qu'il y a d'autres fantômes qui les accompagnent. Et pendant les heures qui vont se dérouler, le tic-tac va devenir de plus en plus pressant, oppressant. Et chacun des personnages va vivre une expérience un peu traumatisante. Et je n'ai pas encore mentionné dans l'ombre cette poétesse française qui a vécu sur cette île avec un singe d'ailleurs et qui est morte depuis. Alphonse, un homme qui a été accusé de pédophilie, qui a été exilé et qui en est mort. Autant dire des signes qui normalement prédisposent à la prudence. Vos personnages auraient dû se méfier, auraient dû s'inquiéter. Est-ce que vous-même, par exemple, vous êtes sensible à ces signes? Est-ce que vous êtes superstitieuse ou pas du tout?
J'aime la superstition. J'aime ce côté. Pendant des années, par exemple, en Grande-Bretagne, des pies sont censées porter la malheur. Donc, pendant des années, je secouais et pour enlever le malheur, il faut saluer les pies. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Non, je ne suis pas particulièrement superstitieux. Mais c'était vraiment un débat dans ce livre, comment traiter un lieu qui hontait, et c'était ma question en fait, et la femme du jardinier qui va amener Josh sur l'île, cette question va être interrogée parce qu'elle va dire à son mari, mais tout ça c'est n'importe quoi, c'est des rumeurs, c'est du blabla, ce qui est mauvais c'est des gens. Et je pense que c'est ça que j'ai voulu voir, et c'est après avoir ce côté un peu gothique du roman où on imagine que c'est des esprits, mais est-ce que c'est pas plutôt les ombres qui sont à l'intérieur des personnes qui vont être révélées? Et c'est toute cette question, moi, qui me fascine sur le mal, que j'adore les auteurs comme Aaron Dunt qui va écrire sur le mal ordinaire et d'où il vient? Est-ce que le mal, c'est quelque chose qui se cache dans le jardin, ou est-ce que c'est quelque chose qui se cache comme potentialité au fond de nous?
Oui, puis aussi, ici, me semble que cette île, l'aller, le retour, le flux, le reflux, c'est aussi le symbole d'une traversée intérieure. C'est-à-dire que quand les personnages quittent l'île, ils ne ressemblent pas à ceux qu'ils étaient quand ils sont arrivés. En quelques heures, leur monde a basculé.
Tout à fait, c'est très juste. Et le passage qu'on vient de lire, en fait, quand ils traversent les bancs de sable, petit à petit, ils commencent à se souvenir de leurs rêves. Et l'île, je trouve, des îles en général, c'est des métaphores très intéressantes pour ces lieux qui vont nous transformer. Donc, il y a vraiment, j'étais très sensible dans l'écriture de voir quelles étaient les frontières de cette île. Quand est-ce qu'ils arrivent réellement sur l'île, les moments où ils vont, il y a une scène où ils vont traverser dans des rochers, qui est inspirée de quelque chose que j'ai fait en Bretagne il y a quelques années, où je me suis retrouvée à faire une traversée de rochers, un peu comme on peut faire avec des dolmens, etc. Et on se dit, est-ce qu'on fait un passage? Donc ces espaces à la fois de transformation, tout à fait, c'est très juste. Ouais.
Merci beaucoup Susanna Crossman d'être venue nous parler dans Littérature sans frontières de ce roman L'île sombre, qui donc a été publié aux éditions La Croisée dans une traduction de l'anglais de Karine Chichereau. Merci encore.
Merci beaucoup à vous.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. en sol majeur.